Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir tout le monde. Il est agréable de vous rencontrer de nouveau dans l'émission quotidienne en français de La Voix d'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Nous souhaitons que vous restiez toujours en bonne santé et ayez toujours le temps d'écouter nos programmes. Pour ce soir, l'émission sera commencée par le journal, suivi de commentaires, l'histoire d'aujourd'hui et la mise au point sur l'environnement.
La Voix de l'Indonésie. Les informations.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le processus de Bali devrait répondre immédiatement aux défis. Le haut commissaire assistant du HCR en charge de la protection, Volker Turk, a exprimé son appréciation à la population d'Aceh, l'Indonésie. Il n'y a pas de problème à la frontière entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La ministre indonésienne des Affaires étrangères a rencontré son homologue de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Indonésie est le deuxième plus grand contributeur des casques bleus. Le Japon accorde 86,84 millions de yens pour 9 projets en Indonésie. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Une série de la sixième réunion ministérielle du processus de Bali sur le trafic illicite, la traite des êtres humains et la criminalité transnationale a officiellement ouvert par le directeur général pour les affaires multilatérales de l'Indonésie, du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hassan Klip, mardi à Nusa Dua, Bali. Dans son discours, l'ambassadeur Hassan Klip a reconnu la nécessité des pays membres du processus de Bali pour répondre aux questions connexes qui se sont produites dans le monde.
We acknowledge the need for the Bali process to be always relevant by responding timely to emergency situations whenever and wherever they arise.
Depuis que nous avons rencontré la dernière fois dans ce forum, l'immigration irrégulière est devenue l'un des problèmes mondiaux cruciaux dans le monde. Cela s'est produit dans de nombreux pays. Nous croyons que le processus de Bali est très important d'augmenter ses efforts, non seulement pour continuer ce que nous avons fait ensemble, mais aussi pour travailler plus dur pour atteindre cet objectif ambitieux. Par ailleurs, l'ambassadeur Hassan Klip a déclaré que la réunion du processus de Bali accommoder également des préoccupations et contribuer à soutenir les initiatives régionales et sous-régionales comme la déclaration de Jakarta et l'initiative Bangkok. L'ambassadeur Hassan Klip a assuré que ces initiatives ont apporté une contribution pertinente à renforcer la coopération des pays dans le cadre du processus de Bali. La sixième réunion ministérielle du processus de Bali est assistée par 267 délégations, y compris 17 ministres de 48 pays, 5 pays observateurs et 6 organisations internationales. Le haut commissaire assistant du HCR en charge de la protection, Volker Turk, a exprimé son appréciation à la population d'Aceh en Indonésie pour leur préoccupation à aider les réfugiés rohingyas l'année dernière. Cela a été déclaré après sa rencontre avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, en marge de la sixième réunion du processus de Bali, le mardi à Nusa Dua, Bali. Volker Turk a déclaré qu'elle a continué à faire des efforts pour aider le gouvernement indonésien à trouver une solution pour être en mesure de traiter les réfugiés rohingyas restant sur la pointe de l'île de Sumatra. Il a souhaité que la réunion de processus de Bali puisse émettre un message fort afin de renforcer la solidarité de la communauté internationale pour faire face aux problèmes des réfugiés dans le monde.
I'd like to pay tribute also to the people of Indonesia, in particular the people from Aceh.
Je voudrais exprimer ma gratitude à la population indonésienne, notamment les gens Aceh, qui ont fait beaucoup pour aider les Rohingyas au Myanmar, les Rohingyas du Myanmar qui sont venus l'année dernière. Nous essayons pour aider le gouvernement indonésien à trouver une solution pour les réfugiés Rohingyas qui sont encore là aujourd'hui. Nous espérons que le processus de Bali peut produire un message fort de solidarité pour les personnes dans d'autres parties du monde. La réunion de la ministre indonésienne des Affaires étrangères avec des représentants du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les problèmes de réfugiés vise à réaffirmer la politique du gouvernement indonésien au programme de rapatriement volontaire, la réinstallation des réfugiés et a également discuté de l'importance de la coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination pour faire face aux problèmes des réfugiés d'une manière globale, y compris la coopération avec les organisations internationales telles que le UNHCR, afin de trouver les causes profondes des réfugiés dans la région. Selon les données de UNHCR, jusqu'à janvier 2016, un total de demandeurs d'asile et de réfugiés dans ce pays a atteint plus de 13 000 personnes de 44 pays. Le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rimbing Pato, a dit qu'il n'y avait pas de grands problèmes autour de la frontière entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Cela a été dit par Rimbing Pato après une réunion bilatérale avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, en marge de la réunion de processus de Bali le mardi à Nusa Dua, Bali. Selon lui, l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont les relations très étroites, dont les deux pays seraient en mesure de résoudre tous les problèmes dans la frontière.
As far as I can see, there isn't a problem at the border. Indonesia and Papua New Guinea has more than 11 MOUs.
Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème à la frontière. L'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont plus de 11 protocoles d'entente, y compris la coopération entre les deux pays. S'il y a des problèmes qui se posent à la frontière, j'ai une relation très étroite avec la ministre des Affaires étrangères. Par conséquent, nous sommes en mesure de résoudre tous les problèmes. En plus de nier l'existence des problèmes à la frontière de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le ministre des Affaires étrangères, Rimbing Pato, a souligné que les deux pays coopéraient dans le développement et le maintien de la frontière entre les deux pays qui pouvait améliorer la prospérité et la sécurité des citoyens des deux pays. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rimbing Pato, en marge de la sixième réunion du processus de Bali, mardi à Nusa Dua, Bali, afin de discuter de la coopération entre les deux pays, tant au niveau bilatéral, régional et multilatéral. La ministre Retno Marsudi a affirmé que certains sujets de discussion dans cette réunion étaient les questions frontalières, le commerce et l'investissement, et aussi le contact entre le peuple par le biais du projet de l'exemption de visa entre les citoyens des deux pays. En outre, selon la ministre Retno Marsudi, les deux pays ont également discuté de l'inauguration du monument frontalier entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi qu'un certain nombre de visites prévues et la réunion ministérielle des deux pays.
First of all, we discussed about the plan to inaugurate
Tout d'abord, nous avons discuté au sujet du plan d'inaugurer le monument à la frontière de l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui a déjà prévu auparavant. La deuxième question, nous avons discuté la préparation de la réunion ministérielle conjointe qui se tiendra à la mi de cette année. Et puis la troisième question, nous avons discuté le plan de la visite du ministre indonésien de coordination pour les affaires politiques, la loi et la sécurité en Papouasie-Nouvelle-Guinée à la fin de ce mois. Cependant, le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rimbeng Pato, dans la même occasion, a affirmé que sa partie a bien accueilli le plan de l'arrivée du ministère indonésien de coordination des affaires politiques, la loi et la sécurité à la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans un avenir proche. Selon lui, cette visite affectera le renforcement de la coopération des deux pays, surtout dans les efforts visant à renforcer la frontière entre les deux pays. Il a également promis d'accueillir l'arrivée du ministère indonésien et tous les autres fonctionnaires compétents pour démontrer la coopération étroite entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Indonésie est devenue le dixième plus grand contributeur des casques bleus de 124 pays, contributeur des troupes. Selon une déclaration rapportée par le site officiel du ministère des Affaires étrangères, mardi, la réalisation importante de l'Indonésie sont enregistrées dans la liste de classement des pays contributeurs des troupes à la mission de maintien de la paix des Nations Unies publiée par l'ONU jeudi 17 mars. Selon les données du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement indonésien actuellement commandé 2843 personnels de l'armée nationale indonésienne et de la police pour 10 missions de maintien de la paix de l'ONU. L'envoi des casques bleus est aussi un instrument de la réalisation de la politique étrangère de l'Indonésie, ainsi qu'un moyen d'accroître la capacité et le professionnalisme des personnels de TNI et la police indonésienne. La réalisation de l'Indonésie fait partie des efforts à réaliser la vision de 4000 personnels de maintien de la paix qui s'est reflété dans le plan de développement national à moyen pour la période 2015 jusqu'à 2019. Le gouvernement japonais a signé un contrat de l'aide de la subvention de la sécurité humaine de 86,84 millions de yens à plusieurs domaines en Indonésie. Selon le communiqué de presse de l'ambassade du Japon à Jakarta, cité par Antara, ce fonds est divisé en 9 projets qui a passé le processus de sélection des projets proposés à l'ambassade du Japon. La signature du contrat entre l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Tanizaki Yasuaki, et des représentants de chaque organisation. Le projet d'aide en matière de sécurité humaine, entre autres le développement de la facilité de formation professionnelle à Sleman, Yogyakarta, l'autonomisation des pêcheurs de Sumbawa, la construction de la maison pour les patients SIDA à Jayawijaya, Papouasie, la construction des écoles primaires à Cilacap, Java Central. Selon l'ambassadeur Tanizaki, les subventions pour la sécurité humaine est un programme qui vise à aider le peuple indonésien directement en utilisant la croissance de l'organisation telle que les organisations non gouvernementales dont les activités sont la base. Tanizaki espère que le projet de sécurité humaine peut contribuer à résoudre les problèmes de développement dans la société en Indonésie. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Des défis du président du Myanmar, Thin Kyaw ». Le président élu Myanmar, Thin Kyaw, face aux grands défis dans la gestion du pays qui était libre de la zone militaire. Lui qui devient du Parti Ligue Nationale pour la Démocratie, ou LND, dirigé par Aung San Suu Kyi, devient le premier président civil Myanmar après plus de 50 ans sous l'autorité militaire. En fait, dans les élections générales de 1990, le Parti pro-démocratie dirigé par Aung San Suu Kyi a également remporté 82% des voix. Mais le résultat des élections n'a pas été reconnu par le régime militaire au pouvoir. Le 15 mars 2016 devient une journée historique pour le Myanmar avec l'élection de Thein Kyaw d'être le premier président civil après plus de 5 décennies de paix contrôlée par les militaires. La République de Myanmar est un pays en Asie du Sud-Est qui a été gouverné par les militaires depuis un coup d'État de 1988. Ce pays en développement a une population plus de 50 millions d'habitants. En 1988, le Myanmar a connu une vague de manifestations contre le gouvernement militaire qui a mis fin à la violence qui a été faite par l'armée contre les manifestants. L'éradication de la pauvreté, une forte influence militaire et la rationalisation du cabinet sont les devoirs pour le nouveau leader du Myanmar. Un autre problème est la faiblesse des ressources humaines. La première tâche qui doit être faite par Thein Kyaw est de former un nouveau cabinet qui va commencer à travailler au début d'avril. Le nom du chef pro-démocratie de Myanmar, Aung San Suu Kyi, qui est mentionné dans la liste des figures qui occuperont la position dans le nouveau cabinet dirigé par le président Thein Kyaw. Mais il doit avoir la réduction du cabinet. Dans le passé, il y avait 36 ministères, la plupart occupés par le militaire. Une autre chose qui est importante pour être traitée immédiatement et également a été un débat public au Myanmar est le scandale de corruption et inefficacité, y compris la question sur les travailleurs et le manque d'emploi qui peuvent déclencher des troubles sociaux. Est-ce que le président Thein Kyaw peut faire face à ces grands défis? Le succès du Parti de la Ligue nationale pour la démocratie a gagné l'élection générale au Myanmar et le soutien du commandant militaire Myanmar, le général Min Aung Hlaing, pour le président Thein Kyaw peut devenir le signe de l'éveil du Myanmar. Cependant, il a besoin de travail dur et le soutien de toutes les parties pour réaliser le gouvernement fort économiquement, socialement et politiquement. C'était le commentaire de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Bonsoir à tous, voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Mussolini crée les Fasso Italiens de combat 23 mars 1919. L'ancien journaliste Benito Mussolini fonde à Milan le mouvement fasciste Fasci di Combattimento. Le groupe paramilitaire, composé essentiellement d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, entend fédérer tous les mécontents contre le régime libéral et parlementaire italien. Les faisceaux de combat compteront 17 000 membres à la fin de l'année et 700 000 au moment où Mussolini prendrait le pouvoir en 1922. L'autre information est sur l'Organisation météorologique mondiale. L'Organisation météorologique mondiale, ou OMM, est une institution spécialisée des Nations Unies. Son rôle est de participer à l'élaboration des normes qui permettent la standardisation des mesures météorologiques, leur échange international pour la veille et la prévision météorologique, leurs archives pour les études climatiques ainsi qu'une application pertinente de cette information. L'OMM traite également de l'hydrologie opérationnelle. Le congrès de l'OMM, aidé de commissions techniques, adopte ces normes et recommandations pour faciliter la prise en compte des facteurs météorologiques, climatiques et hydrologiques dans toutes les activités humaines, préservation des personnes et des biens, transport ou notamment aérien, agriculture, évaluation des ressources en eau, diffusion de l'information par les médias. L'OMM a institué la Journée mondiale de la météorologie le 23 mars pour commémorer l'entrée en vigueur de sa convention en 1950. Nous finissons aujourd'hui avec l'événement. Adam Malik a été nommé troisième vice-président le 23 mars 1978. Le 23 mars, Adam Malik a été nommé le troisième vice-président d'Indonésie, remplaçant Hamengkubuwono IX. Sa carrière était débutée en tant que journaliste et leader de mouvement nationaliste. En 1963, Adam Malik entre dans le cabinet pour la première fois comme ministre du Commerce, en tant également vice-commandant de la première opération de commandement suprême de l'opération économique. En 1964, il sert comme président de la délégation pour la Commission du commerce et du développement à l'Organisation des Nations Unies. En 1966, sa carrière était plus glorieuse quand il a servi en tant que deuxième vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie dans le cabinet Dwi Korado. Adam Malik a atteint la carrière plus élevée lorsqu'il est servi avec succès en tant que vice-président de la République d'Indonésie, nommé par l'Assemblée consultative du peuple. Chers auditeurs, c'était l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers amis lointains, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement ayant pour le titre la commémoration de la Journée mondiale de l'eau le 22 mars. Le 22 mars est célébré comme la Journée mondiale de l'eau. Cette commémoration est débutée de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement à Rio de Janeiro, au Brésil, qui recommande une commémoration pour la question de l'eau. La séance tenue le 22 décembre 1992 a fixé la date du 22 mars 1973 comme première journée mondiale de l'eau. Depuis ce moment, la Journée mondiale de l'eau est célébrée chaque année pour augmenter la sensibilisation de l'importance de l'eau et sa gestion de manière durable. L'Indonésie a commencé la Journée mondiale de l'eau avec diverses activités. Cette activité a pour but d'éduquer les gens pour préserver les ressources en eau, entre autres, en gardant l'environnement propre. Une entreprise de gestion de l'eau à Jakarta a organisé Walk for Water dimanche dernier, 20 mars. L'activité a été suivie par les employés de cette entreprise, les clients et les communautés d'environnement. Ils font une marche amusante, gymnastique ensemble, une visite à l'installation de traitement de l'eau, ramasser les ordures au long des rues principales MH Tamrin et Sudirman, et font la performance de danse des élèves des écoles primaires et de la musique à partir de matériaux recyclés présentés par l'atelier Anak Akar. Les autres activités sont le programme d'éducation de l'eau pour les élèves des écoles primaires, faire un trou de bioporie ou des puits d'infiltration à chaque école. Il y a aussi un concours d'écriture pour les élèves des écoles primaires, ainsi que le concours de photos et d'écriture pour les journalistes avec le thème « Préserver les ressources en eau ». La commémoration de la Journée mondiale de l'eau en Indonésie est également faite sérieusement. L'Indonésie a été choisie pour accueillir la première réunion du Conseil de l'eau d'Asie qui se tiendra à Bali du 24 au 26 mars 2016. La mise en place du Conseil de l'eau d'Asie est le résultat de 4 fois de la réunion appelée une table ronde d'eau du haut niveau de l'Asie depuis juin 2014. Le directeur de la gestion des ressources en eau du ministère des Travaux publics, Auguste Prapto, lundi 21 mars, a affirmé que la réunion du Conseil de l'eau en Asie discuteront des défis dans le domaine des ressources en eau en Asie, en particulier la mise en œuvre de la technologie. Ce résultat, c'était la mise au point sur l'environnement de la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Et après, nous vous présentons le rappel des titres de l'actualité.
Une soirée de la 6e réunion ministérielle du processus de Bali sur le trafic illicite, la traite des êtres humains et la criminalité transnationale a officiellement ouvert par le directeur général pour les affaires multilatérales de l'Indonésie, du ministère des Affaires étrangères, l'ambassadeur Hassan Kleb, mardi à Nusa Dua, Bali. Dans son discours, l'ambassadeur Hassan Kleb a reconnu la nécessité des pays membres du processus de Bali pour répondre aux questions connexes qui se sont produites dans le monde.
We acknowledge the need for the Bali process to be always relevant by responding timely to emergency situations whenever and wherever they arise.
Depuis que nous avons rencontré la dernière fois dans ce forum, l'immigration irrégulière est devenue l'un des problèmes mondiaux cruciaux dans le monde. Cela s'est produit dans de nombreux pays. Nous croyons que le processus de Bali est très important d'augmenter ses efforts, non seulement pour continuer ce que nous avons fait ensemble, mais aussi pour travailler plus dur pour atteindre cet objectif ambitieux. Par ailleurs, l'ambassadeur Hassan Kleb a déclaré que la réunion du processus de Bali a commandé également des préoccupations et contribué à soutenir les initiatives régionales et sous-régionales comme la déclaration de Jakarta et l'initiative Bangkok. L'ambassadeur Hassan Kleb a assuré que ces initiatives ont apporté une contribution pertinente à renforcer la coopération des pays dans le cadre du processus de Bali. La 6e réunion ministérielle du processus de Bali est assistée par 267 délégations, y compris 17 ministres de 48 pays, 5 pays observateurs et 6 organisations internationales. Le haut commissaire assistant du HCR en charge de la protection, Volker Turk, a exprimé son appréciation à la population d'Aceh en Indonésie pour leur préoccupation à aider les réfugiés Rohingyas l'année dernière. Cela a été déclaré après sa rencontre avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, en marge de la 6e réunion du processus de Bali, le mardi à Nusa Dua, Bali. Volker Turk a déclaré qu'elle a continué à faire des efforts pour aider le gouvernement indonésien à trouver une solution pour être en mesure de traiter les réfugiés Rohingyas restant sur la pointe de l'île de Sumatra. Il a souhaité que la réunion du processus de Bali puisse émettre un message fort afin de renforcer la solidarité de la communauté internationale pour faire face aux problèmes des réfugiés dans le monde.
I'd like to pay tribute also to the people of Indonesia, in particular the people from Aceh.
Je voudrais exprimer ma gratitude à la population indonésienne, notamment les gens Aceh, qui ont fait beaucoup pour aider les Rohingyas au Myanmar, les Rohingyas du Myanmar qui sont venus l'année dernière. Nous essayons pour aider le gouvernement indonésien à trouver une solution pour les réfugiés Rohingyas qui sont encore là aujourd'hui. Nous espérons que le processus de Bali peut produire un message fort de solidarité pour les personnes dans d'autres parties du monde. La réunion de la ministre indonésienne des Affaires étrangères avec des représentants du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les problèmes de réfugiés vise à réaffirmer la politique du gouvernement indonésien au programme de rapatriement volontaire, la réinstallation des réfugiés et a également discuté de l'importance de la coopération entre les pays d'origine, de transit et de destination pour faire face aux problèmes des réfugiés d'une manière globale, y compris la coopération avec les organisations internationales telles que le UNHCR, afin de trouver les causes profondes des réfugiés dans la région. Selon les données de UNHCR, jusqu'à janvier 2016, un total de demandeurs d'asile et de réfugiés dans ce pays atteint plus de 13 000 personnes de 44 pays. Le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rimbing Pato, a dit qu'il n'y avait pas de grands problèmes autour de la frontière entre la Papouasie-Nouvelle-Guinée et l'Indonésie. Cela a été dit par Rimbing Pato après une réunion bilatérale avec la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, en marge de la réunion de processus de Bali le mardi à Nusa Dua, Bali. Selon lui, l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont les relations très étroites, dont les deux pays seraient en mesure de résoudre tous les problèmes dans la frontière.
As far as I can see, there isn't a problem at the border. Indonesia and Papua New Guinea has more than 11 MOUs.
Jusqu'à présent, il n'y a pas de problème à la frontière. L'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont plus de 11 protocoles d'entente, y compris la coopération entre les deux pays. S'il y a des problèmes qui se posent à la frontière, j'ai une relation très étroite avec la ministre des Affaires étrangères. Par conséquent, nous sommes en mesure de résoudre tous les problèmes. En plus de nier l'existence des problèmes à la frontière de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le ministre des Affaires étrangères, Rimbing Pato, a souligné que les deux pays coopéraient dans le développement et le maintien de la frontière entre les deux pays qui pouvait améliorer la prospérité et la sécurité des citoyens des deux pays. Vous écoutez le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Madame Retno LP Marsudi, a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rimbing Pato, en marge de la sixième réunion du processus de Bali, mardi à Nusa Dua, Bali, afin de discuter de la coopération entre les deux pays, tant au niveau bilatéral, régional et multilatéral. La ministre Retno Marsudi a affirmé que certains sujets de discussion dans cette réunion étaient les questions frontalières, le commerce et l'investissement, et aussi le contact entre le peuple par le biais du projet de l'exemption de visa entre les citoyens des deux pays. En outre, selon la ministre Retno Marsudi, les deux pays ont également discuté de l'inauguration du monument frontalier entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi qu'un certain nombre de visites prévues et la réunion ministérielle des deux pays.
First of all, we discussed about the plan to inaugurate the monument in the border of Indonesia.
Tout d'abord, nous avons discuté au sujet du plan d'inaugurer le monument à la frontière de l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a déjà prévu auparavant. La deuxième question, nous avons discuté la préparation de la réunion ministérielle conjointe qui se tiendra à la mi de cette année. Et puis la troisième question, nous avons discuté le plan de la visite du ministre indonésien de coordination pour les affaires politiques, la loi et la sécurité en Papouasie-Nouvelle-Guinée à la fin de ce mois. Cependant, le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Rimbing Pato, dans la même occasion, a affirmé que sa partie a bien accueilli le plan de l'arrivée du ministère indonésien de coordination des affaires politiques, la loi et la sécurité à la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans un avenir proche. Selon lui, cette visite affectera le renforcement de la coopération des deux pays, surtout dans les efforts visant à renforcer la frontière entre les deux pays. Il a également promis d'accueillir l'arrivée du ministère indonésien et tous les autres fonctionnaires compétents pour démontrer la coopération étroite entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Indonésie est devenue le dixième plus grand contributeur des casques bleus de 124 pays, contributeur des troupes. Selon une déclaration rapportée par le site officiel du ministère des Affaires étrangères, mardi, la réalisation importante de l'Indonésie sont enregistrées dans la liste de classement des pays contributeurs des troupes à la mission de maintien de la paix des Nations Unies, publiée par l'ONU jeudi 17 mars. Selon les données du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement indonésien actuellement commandé 2843 personnels de l'armée nationale indonésienne et de la police pour 10 missions de maintien de la paix de l'ONU. L'envoi des casques bleus est aussi un instrument de la réalisation de la politique étrangère de l'Indonésie, ainsi qu'un moyen d'accroître la capacité et le professionnalisme des personnels de TNI et la police indonésienne. La réalisation de l'Indonésie fait partie des efforts à réaliser la vision de 4000 personnels de maintien de la paix qui s'est reflétée dans le plan de développement national à moyen pour la période 2015 jusqu'à 2019. Le gouvernement japonais a signé un contrat de l'aide de la subvention de la sécurité humaine de 86,84 millions de yens à plusieurs domaines en Indonésie. Selon le communiqué de presse de l'ambassade du Japon à Jakarta, cité par Antara, ce fonds est divisé en 9 projets qui a passé le processus de sélection des projets proposés à l'ambassade du Japon. La signature du contrat entre l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Tanizaki Yasuaki, et des représentants de chaque organisation. Le projet d'aide en matière de sécurité humaine, entre autres le développement de la facilité de formation professionnelle à Sleman, Yogyakarta, l'autonomisation des pêcheurs de Sumbawa, la construction de la maison pour les patients SIDA à Jayawijaya, Papouasie, la construction des écoles primaires à Cilacap, Java Central. Selon l'ambassadeur Tanizaki, les subventions pour la sécurité humaine est un programme qui vise à aider le peuple indonésien directement en utilisant la croissance de l'organisation telle que les organisations non gouvernementales dont les activités sont la base. Tanizaki espère que le projet de sécurité humaine peut contribuer à résoudre les problèmes de développement dans la société en Indonésie. C'était le journal de la Voix d'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Pour la rubrique suivante, écoutez la rubrique culturelle et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme quotidien, le magazine culturel. Dans l'édition d'aujourd'hui, nous allons vous inviter à faire le rafting sur la rivière de Nimanga. Serviteurs, pour ceux d'entre vous qui aiment l'activité touristique difficile, vous pouvez essayer le rafting. L'un des meilleurs endroits de rafting en Indonésie se trouve au nord de Sulawesi, à savoir la rivière de Nimanga, située au village Timbikar, le district Sonder, la résidence de Minahasa. La distance de ce lieu touristique de la ville de Manado, capitale de Sulawesi du Nord, est d'environ 30 km. Vous pouvez utiliser le transport terrestre. Inclut le rafting sur la rivière de Nimanga, vous pouvez également profiter de la beauté de la nature environnante. Serviteurs, pour le rafting sur la rivière Nimanga, vous devez arriver d'abord au village Timbukar et ensuite passer la zone de peuplement se composant d'une rangée de maisons typiques de Minahasa, les maisons sur pilotis ou les maisons en bois à deux étages. En outre, vous passerez également les plantations de clous de girofle et de durian. Là-bas, vous trouverez plusieurs tours opérateurs de rafting. La rivière de Nimanga provient de nombreuses sources d'eau, si bien que le débit d'eau ne baisse jamais. Mais dans la saison des pluies, vous devez être prudent, car le volume d'eau va se multiplier. La longueur de rafting sur la rivière de Nimanga atteint 12 km et peut être atteint en 2h30. Avant de rafting sur la rivière Nimanga, vous devez porter le gilet de sauvetage et le casque. Pendant le rafting, vous passerez de nombreux rapides. Les caractéristiques des rapides sur cette rivière sont au niveau 3 et 4, mais si la saison des pluies, les rapides sont au niveau 5 et 6. Bien que le niveau des rapides dans le rafting soit élevé, la rivière est assez en sûreté pour passer à gué parce qu'il y a beaucoup de lieux d'eau plate ou de courants plats. Si le bateau chavire, les efforts de sauvetage peuvent être faits facilement. Il y a beaucoup de rapides sur la rivière de Nimanga. Certains rapides qui sont bien connus sont Golden Gate, le premier rapide majeur qui sera trouvé, et Goodbye, un rapide très difficile qui atteint 4 mètres de haut avec le niveau de difficulté élevé. Et le rafting finit au village de Tankunei, le district du sud de Minahasa. Serviteurs, tout au long du rafting, vous verrez les arbres ombragés dans les forêts et les plantations. La troupeau d'oiseaux qui ont arrêté délibérément sur la rivière pour boire et perche sur les arbres. Entouré d'arbres, c'est bien sûr la région à un air frais. À l'entour de la zone de Nimanga, il y a le terrain assez plat pour être utilisé pour ceux d'entre vous qui veulent passer la nuit ici en installant une tente. Chers auditrices et chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir avec le titre « Le rafting sur la rivière de Nimanga ». Demain, nous nous retrouverons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Allez apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, nous nous rencontrons de nouveau dans l'édition Apprendre l'indonésien. Dans l'édition cette fois, nous vous présentons une conversation intitulée Le passe-temps. Voici les mots et les expressions utilisées dans notre conversation. Kegemaran, kegemaran. En français, le passe-temps. Apa kegemaran kamu? Apa kegemaran kamu? En français, quel est votre passe-temps favori? Menyukai, menyukai. En français, aimer. Musique, musique. En français, la musique. Computer, computer. En français, l'ordinateur. Permainan computer, permainan computer. En français, les jeux informatiques. Olahraga, olahraga. En français, le sport. Terutama, terutama. En français, surtout. Berenang, berenang. En français, nager. Bermain bola basket, bermain bola basket. En français, jouer au basketball. Athlète, athlète. En français, l'athlète. Tinggi, tinggi. En français, grand. tetapi, en français, mais, lebih suka, en français, préféré, dua kali seminggu, en français, deux fois par semaine, kolam renang, en français, la piscine. Chers amis, maintenant le vocabulaire vous sera présenté sous la forme d'un dialogue entre Li, A et B, Putri. A. Putri, apa kegemaran kamu? Putri, apa kegemaran kamu? En français, Putri, quel est votre passe-temps favori? B. Saya menyukai musik. Saya menyukai musik. En français, j'aime la musique. Dan kamu? En français, et vous? B. Saya suka bermain komputer dan permainan komputer. Saya suka bermain komputer dan permainan komputer. En français, j'aime jouer à l'ordinateur et aux jeux informatiques. B. Apakah kamu suka olahraga? En français, aimez-vous le sport? Saya suka olahraga, terutama berenang. Saya suka olahraga, terutama berenang. En français, j'aime le sport, surtout la natation. A. Ya, saya suka bermain bola basket. A. Ya, saya suka bermain bola basket. En français, oui, j'aime jouer au basket. Dulu, saya ingin menjadi atlet bola basket karena saya tinggi. Dulu, saya ingin menjadi atlet bola basket karena saya tinggi. En français, d'abord, je voulais être un athlète de basketball parce que j'étais grand. Apakah kamu suka main bola basket? Apakah kamu suka main bola basket? En français, aimez-vous jouer au basket? B. Ya, saya juga suka main bola basket. Ya, saya juga suka main bola basket. En français, oui, j'aime aussi jouer au basket. Tetapi, saya lebih suka berenang. Tetapi, saya lebih suka berenang. En français, mais je préfère nager. Saya berenang dua kali seminggu. En français, je nage deux fois par semaine. A. Kalau begitu, kita akan berenang setelah gigi saya sembuh. Kalau begitu, kita akan berenang setelah gigi saya sembuh. En français, et alors, nous nagerons après avoir guéri du mal aux dents. Bukankah di hotel ada kolam renang? En français, il y a une piscine dans l'hôtel, n'est-ce pas? B. Baiklah, saya harap setelah dari dokter gigi, kamu sudah tidak ada masalah. En français, eh bien, j'espère qu'après la visite chez le dentiste, vous n'aurez plus de problème. A. Terima kasih. En français, merci. Chers amis, c'était notre programme Apprendre l'Indonésien de la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Comme la fin de notre émission, nous vous présentons le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis, l'enfant de l'Indonésie dans quatre coins du monde. Vous écoutez toujours nos émissions en langue française via émetteur en courte sur 9525 kHz ou bien via le streaming audio www.voi.co.id ou via l'application RRI Play sur votre appareil gadget ou portable. Et pour ce soir, c'est le programme de magazine de musique édition de mercredi. Et pour ce soir, nous présentons la chanteuse indonésienne Christine Panjaitan, ayant le beau visage d'origine du nord de Sumatra. Bon, chers amis, comme le début de notre rencontre, allez écouter la première chanson de Christine Panjaitan intitulée Sudah Kubilang. Bonne écoute.
Jangan, sayang.
Chers amis, les chansons chantées par Christine Pagnétan, la plupart écrites par le compositeur et musicien Rinto Harahap. Elle rend si parfait des chansons composées par Rinto, si bien que le nom de Christine est très célèbre dans le monde musical aux années 80 en Indonésie. Outre d'être chanteuse, elle est aussi connue comme professeure de l'Université de Pajajaran au sujet de langue mandarin. Auparavant, Christine Pagnétan a commencé sa carrière comme chanteuse depuis son adolescence. Mais elle ne trouve pas les chansons parfaites pour elle, surtout pour sa caractère. Mais quand elle rencontre Rinto Harahap, Christine a trouvé sa fortune. Les chansons de Tangan Tak Sampai et Untuk Mama, créées par Rinto Harahap, a fait le nom de Christine Pagnétan devenu populaire. Bon, chers amis, nous allons entendre encore la chanson suivante de Christine Pagnétan intitulée Untuk Mama. Bonne écoute.
C'est la fin de notre émission. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 2011 Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.